Ce podcast vous est proposé par BPI France Université. Retrouvez les centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifranceuniversite.fr.
Les concurrents, une histoire humaine de croissance externe. Épisode 5, bilan, perspective, succès et échec.
Dans cet épisode de cette série de 5 podcasts, nous retrouvons une discussion entre Fabrice Prost, président de HEF, Xavier Naze, président du groupe Naze, et en fin d'épisode, Stéphanie Frachet, directrice investissement BPI, qui vous partagera son expérience. Je suis Pierre, fondateur de Toutac et animateur de podcast, et je jouerai le sparring partner de nos 3 invités. Bonjour Fabrice.
Bonjour Pierre.
Bonjour Xavier.
Bonjour Pierre.
Nous nous retrouvons pour ce 5e et dernier épisode. Nous allons parler finalement bilan, analyse, perspective, succès, échec. J'aimerais vous poser une première question personnelle. Comment ça vous a fait grandir de racheter, pas grandir vos sociétés, j'ai compris ça, mais grandir à titre personnel, est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Qui commence ? Xavier, tu y vas ?
Le gros bénéfice, il est humain parce qu'on rencontre des nouvelles personnes. Ouais. Des dirigeants, on rentre dans l'intimité de nouvelles sociétés. Humainement, c'est la croissance externe, ce sont des super aventures. Et surtout quand ça se passe bien. Le développement du groupe, évidemment, tu l'as dit, mais c'est pas le sujet.
Et mais c'est un sujet quand même, parce que reprendre un groupe familial, il y a l'idée de le perpétuer quand même. Je pense que ça compte.
Oui, alors, après, est-ce qu'on est prudent dans nos acquisitions? Je peux quand même indiquer qu'on a doublé de taille en 5-6 ans.
Ouais.
Donc c'est important pour une entreprise familiale, tout ce que ça implique, les changements culturels, les changements de fonctionnement. Et effectivement, le fait que ce soit un groupe familial et que ce soit des enjeux patrimoniaux pour Olivier et moi, ça implique une forme de prudence. Donc c'est un exercice auquel on se prête, que l'on affectionne, que l'on aime. On aime ces aventures de croissance externe tout en étant prudent.
Fabrice, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté et comment ça t'a éventuellement fait grandir d'être dans ces processus de rachat ?
Alors écoute, moi je crois que ce que ça m'a apporté en premier lieu, c'est de rencontrer des gens qui par leur regard et qui par leur activité au sein du groupe nous ont fait énormément grandir sur la bonne compréhension de ce qu'il fallait faire sur les marchés qu'on abordait parce qu'eux les connaissaient et pas nous. Et ce sont des gens qui pour beaucoup sont devenus très importants dans l'entreprise. Qui eux-mêmes sont devenus actionnaires de la boîte, qui ont pris des rôles bien au-delà de l'entreprise rachetée et qui sont des gens sur qui maintenant on s'appuie pour prendre toutes les décisions importantes sur les territoires sur lesquels ils sont implantés. Voilà, donc c'est une aventure humaine.
Tu grandis des autres de ce que tu apprends de ceux que tu rachètes.
Voilà. En fait, tu sais, c'est une méthode d'intégration de compétences. Et c'est des gens qui nous indiquent les bonnes décisions par rapport à leur connaissance d'un territoire ou d'un marché. Donc nous, on a grandi grâce à eux pour mieux comprendre comment bien faire en fonction des endroits du monde où on se déploie. Et sans eux, on n'aurait pas su faire. Voilà. Donc vraiment, faire rentrer des hommes qui incarnent une compétence très forte sur un marché. Donc ça, c'était très important pour nous. L'autre volet, il peut être plus scientifique. C'est-à-dire qu'on a apporté, avec les croissances externes, des accès à des technologies et donc des groupes de sciences et de scientifiques.
Je t'interromps parce qu'on entend un peu grincer. Lisa me regarde. Lisa, c'est notre ingénieur du son parce que ça grince. Oui, on est sur un bateau. Donc effectivement, le bateau bouge et ça grince. Je t'en prie, continue.
Alors écoute, c'est bien que tu le dises parce que j'ai un peu le mal de mer. Donc, voilà, la science, donc ça nous a fait grandir scientifiquement, parce que quand on rachète des boîtes qui ont un contenu scientifique très fort, eh bien, les gars nous apportent une richesse de projection technique sur qu'est-ce qu'on pourrait amener aux clients. Ça, c'est un deuxième élément qui nous a fait grandir. Troisièmement, ce qui est important, c'est dans une boîte internationale, ce que les sociologues appellent l'ethno-relativisme, c'est-à-dire de ne pas se placer au centre dans les jugements culturels. D'être toujours en train de se
dire... Vous faites plus de chiffre d'affaires à l'international qu'en France.
Hein. Ah oui, on fait
80-20, c'est ça ?
On fait 4 fois plus de chiffre d'affaires à l'international qu'en France. Donc, se dire, mes convictions culturelles, je les mets de côté pour d'abord essayer de comprendre ce qu'on me raconte, c'est devenu clé. Et ça, c'est une forme d'humilité. Et comme toujours, dans l'humilité, on grandit. Parce qu'il y a de la place pour l'apport de l'autre. Donc voilà, l'humilité, ça aussi, c'est un élément fort, à mon avis.
Alors, peut-être est-ce un peu traditionnel comme question, mais finalement, c'est quoi les éléments clés avec le recul, avec les rachats que tu as fait, Xavier, de la réussite, puisque jusqu'à maintenant, et je te souhaite de continuer, ce sont des réussites. Qu'est-ce qui a fait que ça fonctionne? Ouais,
ce qui me semble primordial, c'est s'associer avec des gens qui vous ressemblent. Moi, je suis franco-français, donc dimension culturelle, même si ça peut changer d'une région à une autre, elle est bien évidemment beaucoup...
Entre un basque et un breton, si tu veux dire, ça peut être compliqué?
Non, au contraire, ça se passe bien. On a les mêmes problématiques identitaires.
D'accord.
On s'entend très bien avec les Corses également. Non, c'est important qu'il y ait un partage de valeurs entre les sociétés qu'on rachète et qui rentrent dans le giron du groupe. C'est une clé de la réussite, le fait de se ressembler, de parler le même langage, d'avoir les mêmes codes.
Et est-ce que, de la même manière, tu peux te dire, il y a eu à l'intérieur de ces succès que tu connais, il y a quand même eu des échecs, pas majeurs, mais des choses. Et est-ce que tu vois à quoi ça a pu tenir?
Dans les process d'intégration, on a fait des erreurs.
Des choses perfectibles.
Ouais, par crainte, manque de visibilité sur la société, on a voulu mettre une personne à la direction qu'on connaissait par ailleurs, mais qui n'était pas au sein de la boîte. Donc on a mis en place un patron de filiale d'une société qu'on venait de racheter. Et ça n'a pas fonctionné.
Ça vous rassurait, mais ça n'a pas marché.
Exactement.
C'est ça ?
Exactement.
Ouais.
Parce que il ne s'est pas suffisamment emprunt de la culture de la boîte, l'arrivée d'un grand groupe. Donc avec des modes de fonctionnement et des méthodes différentes qu'une PME ou qu'une ETI de notre taille.
Et finalement, qui a pris la direction après?
Un collaborateur qui était déjà présent dans la structure.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
De ça, on a quand même appris de faire confiance aux équipes en place.
Ouais.
Et faire grandir les collaborateurs déjà présents, les faire évoluer, leur donner l'opportunité de prendre des responsabilités, c'est souvent des paris qui marchent bien. Plutôt que se dire, ouais, on va recruter un super mec qui a un super bagage, un super diplôme, un truc. S'il n'a pas la culture de votre groupe, s'il n'a pas la culture de la boîte, s'il ne partage pas les mêmes valeurs, aussi bon qu'il soit, ça ne marchera pas.
Ok. Même question pour toi, Fabrice.
Ne pas croire à l'homme providentiel, hein, c'est ce que dit Xavier. À un moment donné, il faut faire avec les gens qui sont en place. Et le coup de l'homme providentiel, ça marche très rarement.
Ouais.
Surtout dans un cadre de rachat où il y a énormément d'incertitudes pour tout le monde. Alors, remettre de l'incertitude avec un tiers providentiel qu'on ne connaît pas, non. Vraiment très d'accord avec cette remarque. Bon, on s'est planté sur certains rachats, à l'évidence. Alors, c'est quoi les biais? Ce sont des biais cognitifs. Se vendre à soi-même une belle histoire, mais ne pas regarder ce que pourrait être une histoire moins belle. Ne pas ouvrir les yeux sur des risques.
Tu es emporté par une forme de fougue ou une forme d'envie,
voilà.
Et ça dépasse
oui,
tout.
Voilà. L'euphorie, ouais.
Voilà, c'est ne pas se laisser emmener par une projection qu'on peut faire qui va être très, très positive, mais qui va être naïve. Moi, je suis vigilant à ça, et ça, la gouvernance est importante dans ce cadre. Hein. Xavier, son frère, pose de la controverse. Nous, dans notre gouvernance, on organise la controverse en groupe. Ça n'empêche pas qu'il y ait des biais. Il faut vraiment qu'il y ait une équipe qui incarne la controverse pour ne pas se planter. Parce que, voilà, on s'est auto-ébloui. Voilà. Moi, je suis vigilant là-dessus maintenant avec les dossiers. Et après, je me rends compte que même quand on se plante, on arrive à rebondir.
D'accord.
Et nous, rares sont les dossiers où on se dit, on a vraiment fait une connerie.
Ouais.
Par contre, il faut se donner du temps. Parce que, autant il faut prendre des décisions rapidement pour ne pas laisser la situation se dégrader, autant redonner vie à un projet, même si le premier n'a pas fonctionné, en s'appuyant sur des collaborateurs et en disant, OK, très bien, ça n'a pas marché, mais on se donne 5 ans et on reconstruit quelque chose ensemble et on vous donne le pouvoir de le faire. Nous, ça a marché pour nous. Même sur des boîtes où on s'était vraiment planté. Moi, j'ai le souvenir d'une boîte où 15 jours après le rachat, on perd le plus gros client qui représentait 40% du chiffre d'affaires.
Ouais, là, c'est l'imprévisible.
Et où d'une boîte qui gagnait vachement d'argent récupère une boîte qui, 15 jours après, était à l'équilibre et pouvait en perdre, quoi.
Ouais.
Et donc, on avait mis 5 millions sur la table et la boîte valait plus rien. 5 ans plus tard, elle vaut 7-8.
Ouais.
Et on a donné le temps. On y a cru. Et on a accompagné et finalement, il n'y a rien à regretter. Donc, ne pas paniquer. Voilà. Ne pas se laisser éblouir. Et puis, si ça se passe mal, ne pas paniquer non plus. Parce que en s'inscrivant dans le temps, les gens le sentent. Et du coup, eux non plus ne paniquent pas. Et on arrive à reconstruire quelque chose. Quoi.
Cette question, elle est valable pour vous deux. Et avec des cultures différentes et des origines différentes, c'est comment... Maintenant, vous avez mis en place un savoir-faire de succession d'achats. On passe d'un achat, ce que vous avez commencé il y a 6 ans avec ton frère, à une succession d'achats. Comment on fait finalement? Est-ce que à chaque fois on a un carnet où on note comment on s'améliore? Qu'est-ce qu'on fait?
Ah, on apprend de ses erreurs, hein, ouais. Évidemment. On essaie de pas les reproduire le moins possible. On parlait de la succession d'acquisitions. Alors déjà, on y prend goût. Quand ça se passe bien, on a envie de répéter l'histoire. D'abord parce que, on l'a dit aussi, c'est des aventures humaines qui sont formidables. Croissance Accent, c'est avant tout une aventure humaine. On fera des erreurs. Je suis persuadé qu'on aura probablement, on aura des croissances externes plus malheureuses. Ouais. Ça fait partie du jeu quelque part. Bon, alors on met tous les garde-fous et on essaie d'être vigilant sur essayer de bien acheter, mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise acquisition, bien évidemment.
Fabrice, succession d'achat, c'est ce que vous vivez depuis longtemps. Est-ce que maintenant vous avez vraiment un process? Est-ce que c'est, tu l'as évoqué?
Oui, oui. En fait, on a internalisé un process d'achat, on l'a professionnalisé, c'est intégré dans l'emploi du temps des équipes, etc. Donc, c'est plus quelque chose qui vient en plus, qui nous surcharge, etc. On l'a intégré dans nos emplois du temps. Donc ça, c'est important et ça fait partie du fonctionnement de l'entreprise. C'est un des moteurs de la croissance. Ça veut dire que si on veut aller dans cette stratégie de croissance, ben, y a une organisation qui va avec. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, l'inductivisme, hein, c'est le fait de croire que parce que ça a toujours bien marché, ça va toujours bien marcher. Bah, faut éviter de tomber dedans parce qu'il y a des pièges à chaque pas. Bien sûr, rester vigilant, penser à ce qu'on fait. En fait, ne pas perdre le recul d'un problème de gouvernance, d'orga. Faire se succéder les achats, c'est reproduire la même vigilance à chaque achat. Et là, bah, c'est le rôle du dirigeant quand même. Et
pas baisser la garde.
Pas baisser la garde. Voilà, exactement.
Avant de retrouver Stéphanie Frachet, la BPI, merci Fabrice, merci Xavier. Pour la transparence, pour la découverte que nous avez permis d'avoir du processus d'achat, mais au-delà d'un processus de la découverte que c'est pour vous, des hommes et des femmes que vous rachetez. Merci beaucoup et puis bonne continuation.
Merci beaucoup Pierre.
Merci Pierre pour cette rencontre et cet échange fort agréable.
Écoutons maintenant le point de vue de Stéphanie Frachet, celui d'une membre de conseil d'administration d'ETI qui accompagne, entre autres, des croissances externes.
Ce qui m'a frappé, c'est que, à la fois dans les propos de Xavier et de Fabrice, on retrouve le point commun, je pense, dans leur expérience, c'est que cette phase de discussion, de négociation sur les opérations de croissance externe est très axée sur, finalement, le lien qu'ils arrivent à créer avec le dirigeant de la cible ou les vendeurs. Il y a finalement une expérience de leur côté qui est très intuitu-personnée, qui est de dire, finalement, il faut bien identifier les gens dont je vais acheter l'entreprise, qu'ils sont un peu comme nous. Ce qui est très vrai dans tout un tas de situations que moi aussi j'ai observées et ce qui, je pense, caractérise à la fois beaucoup les entreprises familiales parce que c'est leur ADN et donc elles cherchent, quand elles font de la croissance externe, à aller chercher aussi ce lien avec les dirigeants. Mais moi, j'observe, ou en tout cas, j'ai la vision de situations qui peuvent être très différentes, beaucoup plus désincarnées, où quand on a des fonds d'investissement au capital dans des entreprises qui ne sont donc pas familiales, hein, qui ont un dirigeant, qui ont bien sûr des valeurs, une histoire, une culture, mais quand même qui sont peut-être marquées par le fait d'avoir des fonds d'investissement à leur capital. L'enseignement, il est de savoir, de poser le stylo et de dire, bah, cette cible-là, malgré toute l'énergie que j'y ai mis depuis des mois et des mois, et malgré tout le bon travail que j'ai fait, elle n'est pas pour moi. Et encore une fois, ça n'est pas grave. On a le sentiment sur le moment qu'on perd un truc très important et que l'opportunité ne se représentera pas. Ma conviction, c'est que ça n'est pas le cas. La vie des affaires montre que si, elle se représente différemment dans une géographie nouvelle, avec des gens nouveaux, et finalement, l'entreprise retombe sur ses pattes, mais il faut accepter ça. Et sur le moment, c'est un peu douloureux pour le dirigeant, qui a le sentiment, encore une fois, que c'était maintenant ou jamais. Moi, je veux souligner particulièrement le rôle du conseil d'administration. Je pense que, au-delà de la croissance externe, enfin, c'est très important pour une opération de croissance externe parce que c'est structurant dans la vie d'une entreprise, mais de manière plus générale, je pense que le rôle d'un conseil d'administration dans l'accompagnement du dirigeant, d'une équipe de management, est clé. C'est sain de mettre en place peut-être un comité d'audit qui n'existe pas dans une entreprise très familiale, mais c'est sain, voilà, de donner ce cadre à l'entreprise, de faire participer bien sûr les actionnaires et bien sûr les dirigeants, mais peut-être aussi des indépendants à ce conseil d'administration. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup pratiqué chez BPI France, ou parfois dans des entreprises familiales. On est très dans l'entre-soi. Ils sont ravis de nous accueillir, nous, fonds d'investissement, en particulier BPI France, avec une vision d'investisseurs très partenaires, dans le temps long, etc. Mais Mais c'est parfois insuffisant. Nous, on leur dit souvent, votre gouvernance, pour être efficace, elle mériterait, elle gagnerait à faire venir de l'expertise extérieure, de gens qui ont un parcours dans votre secteur, dans une géographie que vous voulez explorer et sur lequel vous n'avez aucune compétence. Aller chercher des gens qui sont, eux, aguerris aux exercices de gouvernance et qui vont vous aider à structurer tout ça. Donc, je pense que c'est très important parce que ça fait grandir l'entreprise.
Nous remercions Stéphanie Frachet, Xavier Nays et Fabrice Prost de leur témoignage dans cette saga Les Conquérants.
Ce podcast vous a été proposé par BPI France Université. Retrouvez les centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.